nous sommes aux ateliers Magélis, donc c'est au 1 rue de Sainte à Angoulême, dans le cadre du festival Spin-Off, qui est un festival off du festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et c'est un festival qui est gratuit, qui est dédié à l'auto-édition, la micro-édition et la musique alternative. Moi, je m'appelle Myriam Misfioui. Je suis designer graphique et illustratrice et je suis la cofondatrice du festival.
Alors du coup, ce festival, c'est né comment ? L'idée, elle vient d'où ?
Alors, c'est né en 2017. Avant nous, en fait, il y avait ce qu'on appelait le FOF. Donc c'était le même principe de festival en parallèle du FIBD. Donc FIBD, c'est le festival officiel à Angoulême.
International.
Oui, mais je l'ai déjà présenté tout à l'heure. Tu comprends ça, voilà.
Ça, c'est Thomas.
Bonjour Thomas, merci pour ton intervention. Et donc, cette équipe, c'était des anciens étudiants donc, de l'ESI, c'est l'École européenne supérieure de l'image, / Beaux-Arts d'Angoulême. Ils ont fait ça pendant 7 ans. Et au bout de la 7e année, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter. Et Thomas et moi, comme plein de gens, on était très tristes d'apprendre ça. Et juste à un moment, la question s'est posée de est-ce que... On se contente d'être triste comme tout le monde qui est plus de off pendant le festival, ou est-ce qu'on essaye de tenter quelque chose, même si nous à ce moment-là à notre échelle on n'avait pas spécialement d'expérience dans l'événementiel. Enfin, Thomas il avait fait quelques événements avec le collectif des Hiboux du coup qui était déjà créé depuis 2014. Moi j'avais fait quelques événements étudiants mais voilà sans plus. Et on a appelé Jean Guyot, qui est donc président de l'association du collectif des Hiboux, et qui est régisseur son et lumière. Donc c'était essentiel pour la partie musique, parce que le FOF aussi faisait des concerts. Et dès qu'on a eu le feu vert de Jean, on s'est dit, ok, bah, à nous trois, avec les relations qu'on peut avoir, et le fait qu'on soit déjà, nous, impliqués dans le milieu du fanzina et de la micro-édition, c'était peut-être jouable. Quoi. Donc c'est né comme ça.
En cette année 2020 se tenait donc la 4e édition du spin-off, sacrément bien ficelée et relativement bien fréquentée. Les stands installés dans les ateliers Magélis étaient pleins de couleurs et de propositions variées, tenues par des artistes engagés et en colère, mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la semaine. Et en soirée, c'était littéralement blindé et nous, on a bien dansé. Bref, succès. Donc là, c'était la 4e édition cette année ?
Oui.
C'était blindé ?
Ouais, bah là on a eu de la chance parce qu'on a eu un lieu beaucoup plus grand que les années d'avant. Et ça a permis d'accueillir beaucoup plus d'exposants. La première année on était à 25 exposants, la seconde 45, la troisième 65. Et là on est à plus de 84 exposants, voire plus parce qu'il y en a qui partagent la même table. Donc quand je dis 84 c'est en termes de table. Donc on a je pense une bonne centaine d'exposants.
Quand tu as présenté un petit peu le festival au début, tu as parlé de micro-édition.
Oui.
Qu'est-ce que c'est pour les néophytes ?
Donc pour faire simple, la micro-édition, donc c'est une petite niche dans l'édition qui sort du circuit classique qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... En fait, il peut y avoir des éditeurs, mais c'est des gens essentiellement qui gèrent tout le processus du livre de A à Z, c'est-à-dire la création du contenu, l'impression, ou alors ils passent par un imprimeur mais qui ne tire pas beaucoup d'exemplaires. Et il y a aussi le façonnage, on gère vraiment en fait toutes ces étapes soi-même. Ça permet aussi pas mal d'expérimentation, donc c'est pas des gens qui vont forcément utiliser des techniques d'impression style numérique basique, ça va plus se tourner vers de la sérigraphie ou de la risographie, des techniques un peu plus artisanales où il est possible d'avoir un rendu un peu plus différent, intéressant. Voilà.
Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce monde-là ?
Ben moi, déjà quand on était étudiant, ben moi j'étais à l'ESI en fait, j'ai fait un master en bande dessinée. Et du coup forcément quand on est étudiant, pour sortir un peu ses premières BD et tout, on passe par le fanzina. Et après j'ai découvert qu'en fait c'était possible de continuer là-dedans. Pour beaucoup de gens en fait c'est juste une première étape avant de vraiment se professionnaliser et se faire éditer et sortir un vrai livre, comme on dit. Mais moi, du coup, j'ai pu voir que voilà, y a des gens aujourd'hui, on accueille par exemple, je sais pas, les éditions Matière qui sont éditeurs, mais qui sont là depuis presque 20 ans dans le milieu de la micro-édition. Et j'avais envie vraiment de continuer là-dedans. Et j'aime la liberté que ça offre aussi, où on gère vraiment tout. Donc c'est hyper dur aussi parce qu'il faut trouver, même en termes de financement, c'est pas évident. Mais au moins, on n'a personne derrière qui vient contrôler, on va dire, même comment on doit présenter telle ou telle case ou telle page, revoir le contenu, etc. Ici, par exemple, ce qui est bien dans la micro-édition, c'est que ça ne touche pas uniquement la BD. Dans les livres qu'on a, il y a des gens qui vont avoir que des livres d'illustration ou que du texte ou peut-être de la photo. Enfin, ça touche un peu tous les médiums. Mais c'est vrai que oui, la bande dessinée, en fait, à la base, c'est juste une image très réduite que les gens ont. Mais ça fait, depuis très très longtemps, ça fait plusieurs décennies qu'il y a énormément d'expérimentation là-dedans, parce que c'est un médium justement qui peut se mélanger avec plein d'autres disciplines artistiques. Et c'est vraiment libre à chacun. Il y a par exemple un mouvement qui s'appelle l'Ubapo, où c'est plusieurs auteurs qui partent de contraintes graphiques pour après penser des bandes dessinées. Et du coup, on peut vraiment aller très très loin. Il y a de la bande dessinée abstraite. Du coup, on a par exemple un des exposants qui s'appelle Sammy Stein. Lui, c'est genre la star de la BD abstraite. Et ce qu'il fait, bah, pour plein de gens, ça peut être pas du tout de la bande dessinée comme, je sais pas, Astérix ou Lucky Luke, mais il faut juste s'ouvrir l'esprit.
J'étais d'ailleurs chez Éditions Matière.
Si Thomas évoque ici les Éditions Matière, c'est parce que vous les retrouverez d'ici la fin de la semaine lors d'une interview.
Ouais, je disais que je suis curieux de savoir ce que pense Éditions Matière de leur place dans la micro-édition, parce que pour moi, c'est un éditeur, c'est pas de la micro-édition. Mais par contre, en termes de choix artistiques, d'auteurs qu'ils éditent, ils ont clairement leur place au spin-off avec les auteurs auto-édités. Et comme quand ils éditent Sammy Stein, par exemple, ou même Jérémy Pinangre, ou d'autres auteurs qui sont là, quoi.
Après, tu vois, dans la micro-édition, l'idée, c'est que, oui, à la base, on passe pas par le circuit classique, l'édition, donc il n'y a pas cette histoire d'intermédiaire, d'éditeur, etc., de diffuseur, machin. Mais on a quand même dans l'eau des imprimeurs et des éditeurs, pas spécialement matière, mais des gens plus petits. Enfin, du coup, c'est possible en fait aussi d'être un micro-éditeur, on va dire, quand c'est un collectif qui décide par exemple de publier les livres de plein d'auteurs, que ce soit du collectif ou autre. Donc t'as des petites structures comme ça qui se montent, vu que ça reste... Des faibles tirages et des auteurs qui sont quand même assez libres ou qui ont une vision, tu vois, ils sont quand même d'accord. Ça rejoint quand même la micro-édition.
Cet aspect de collectif, du coup, c'est hyper important pour les jeunes auteurs ou les auteurs en devenir?
Ça dépend en fait de chacun. Il y en a qui aiment se lancer solo, il y en a qui commencent en collectif parce que c'est plus simple forcément à plusieurs. Ça peut faciliter beaucoup de choses, on peut se motiver aussi, on peut avoir une idée de projet un peu plus grand, viser, être un petit peu plus ambitieux. Et pour certains, c'est juste un premier début avant de se lancer tout seul, ou il y en a que ça n'intéresse pas du tout, qui ont déjà une vision très claire de ce qu'ils veulent faire tout seul, du coup ils passent pas spécialement par cette idée de collectif.
C'est vrai que pour postuler tout seul, il faut avoir une pratique déjà assez aboutie, avoir plein de livres, pour avoir quelque chose de convaincant à poser sur la table, quoi.
C'est rare en fait là sur les exposants qu'on ait des gens vraiment tout seuls.
Il y en a quand même.
C'est, oui, il y en a, mais c'est en termes de. Enfin, si on parle juste de chiffres, la grosse majorité c'est des collectifs. Après, c'est aussi souvent quand on dit collectif, c'est pas forcément des gens qui ont pensé des projets ensemble. Ça peut être aussi des gens, nous on est 5 amis, on a chacun notre pratique. On sait que tout seul on n'a pas assez. De production pour être pris quelque part ou avoir un stand entier. Et du coup, on postule au nom d'une structure commune. Mais clairement, on n'a pas fait d'ouvrage ensemble. Chacun pose ses trucs, en fait. Ça arrive aussi, ça, c'est souvent même le cas dans le festival, dans n'importe quel salon, en fait.
Quelle force vous trouvez dans l'illustration aujourd'hui ?
Moi, pour moi, c'est la manière de s'exprimer, une des manières de s'exprimer les plus intuitives et les plus innées chez l'être humain. Et plein de fois, quand on ne sait pas comment s'exprimer ou quoi, on passe directement par « vas-y, je vais te gribouiller un truc », ça ressemble à ça, parce que tout de suite, on a une image mentale de ce qu'on voit. Enfin, moi, personnellement, oui, mais il y a quand même pas mal de gens comme ça, tu vois, quand... Il y a un projet, par exemple, qu'on avait découvert à Toulouse, d'une personne qui était allée en Corée du Sud. et qui n'arrivait pas du coup à communiquer forcément. Et en fait, elle a commencé à dessiner en fait. Elle en a fait un petit fanzine pour raconter tout ça. Et justement, le dessin, c'est un langage qui est universel. Quand on voit n'importe quel artiste, tous les grands peintres, ou ils ont réussi à toucher le monde entier parce que quelque part, il y a quelque chose qui fait que n'importe qui, peu importe sa culture, peu importe son milieu social, il y a toutes ces barrières, en fait, elles peuvent être complètement bousculées, renversées via l'image, en fait. C'est ça qui fait que c'est important.
Merci.
Je t'en prie.
C'était Myriam Mesfioui au spin-off 2020 à Angoulême. Et si les termes fanzine, risographie, sérigraphie ne vous parlent pas aujourd'hui, restez à l'écoute de Radio MDM cette semaine. Des artistes, des auteuristes nous ont expliqué tous ces termes, toutes les nuances. Ils sont plus intéressants les unes que les autres.